RMC.
Jimmy Brown, l'after foot face au Tchad.
C'est un match contre. C'est ça, ouais, compte à rebours qui peut s'étirer dans le temps et qui peut
profiter. Compte à rebours qui peut s'étirer dans le temps, alors laisse-moi comprendre.
Le tic-tac.
Tic-tac, quoi, qui peut.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est plutôt un joueur qui a égayé sa palette, comme on dit avec Mourinho.
Élargi peut-être.
Ouais, et élargi.
20h-22h, Génération After.
Simon Dutin.
Et le best-of, les archives de Génération After s'enrichit chaque soir, chaque émission, peut-être encore ce soir, en compagnie de Kevin Diaz, Jimmy Brown, Elton Mokolo. On est ensemble en direct jusqu'à 22h avant de passer la main à Nicolas Jamin pour l'After en compagnie de Florent Gautreau, Daniel Riolo, Gilles Vestière, ancien arbitre international, qui sort un ouvrage qui rassemble tous ses grands souvenirs d'arbitre international, sera l'invité de Nico. Il aura évidemment beaucoup de souvenirs à partager. Si vous avez raté la première heure de l'émission, je vous invite à la podcaster. Dès que vous aurez un petit peu de temps, on s'est projeté avec Jimmy, Elton et Kevin sur ce mondial qui commence dans 9 jours seulement, à peine, et dont vous ne manquerez rien sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde. Les favoris, les outsiders, la Coupe du Monde des entraîneurs nous a fait remarquer Elton, un casting de luxe, de choix sur les bancs, ce qui a un petit peu surpris notre ami Kevin.
Un avis au combien tranché de la part
de tranché, là. Là, c'est l'avis tranché de l'année.
Sa chambre depuis.
Écoute, c'est pas loin, mais je t'en laisse soin de penser ça.
Voilà, on se régale évidemment. Bon esprit comme d'habitude. On va revenir un petit peu en France parce que. Quelques jours seulement après avoir assuré son maintien en Ligue 1, le GC Nice se projette déjà vers la saison prochaine. Elle sera forcément différente en termes d'objectifs, de moyens.
Vous souhaitez pour les supporters de soi.
Oui, mais peut-être même en visant des objectifs avec des moyens peut-être recalibrés, qui sait, d'autres personnes sur en dehors du terrain. On rappelle qu'à l'été dernier, le Gym disputait les barrages du tour préliminaire de Ligue des Champions,
c'est ça, oui.
Éliminé par Benfica, mais après une magnifique.
C'est d'ailleurs ce qui a rappelé Dante dans ce fameux discours là, qui deviendra fameux, en tout cas je le sais, à Nice. Parce que c'est un discours extraordinaire, très émouvant et très juste.
Juste avant le barrage retour,
il dit justement que voilà, pour lui, c'est une fierté et qu'il fallait absolument laisser ce club à cette position.
Et on se souvient qu'on était un petit peu inquiet quand même en début de saison dernière pour Nice, mais on les voyait pas quand même faire une saison aussi compliquée, puisque quasiment un an plus tard, une 16e place en championnat, finale de Coupe de France, perdu face à Lens. Alors Nice est à un tournant, messieurs, on va en parler avec notre correspondant RMC Sport sur la Côte d'Azur, au plus près de l'actu des Aiglons, Maxime Tilliette, qui passe une tête dans Génération After. Salut Maxime.
Salut Simon, Kevin, Elton, Jimmy, bonsoir.
Salut Maxime.
Salut Maxime. Maxime qui est le guignard d'or de cette saison, quand même, il faut le dire. Il y avait Nice et Monaco en début de saison, ouais. Barrage, Ligue des Champions, exactement. Ils finissent l'un 16e, ils allaient descendre, les autres même pas en Coupe d'Europe.
Ouais.
Bravo Maxime.
Guignard jusqu'au bout, ouais. Je l'ai croisé.
En plus, il allait te poudrer à Cannes, horrible.
Je l'ai croisé à Cannes avant le match de la montée.
C'est une horreur. Ne croisez pas Maxime Tilliette, il peut vous arriver des soucis.
Le guignard, mais c'est quand même lui qui a le plus beau bronzage de toute la rédaction foot de RMC. Maxime, avant de se projeter sur la suite, sur les chantiers nombreux de l'OGC Nice, raconte-nous un petit peu les derniers jours du côté de Nice, du club, et notamment depuis ce maintien en Ligue 1 arraché face à Saint-Etienne.
Bah forcément un immense, immense, immense ouf de soulagement après ce dénouement exceptionnel, malgré un barrage retour assez compliqué. L'entame était quand même très laborieuse pour le Gym. Les événements ont été contraires, avec un rouge non accordé sur une faute sur Melvin Barre, un pénalty un peu tombé du ciel qui remet Sainté dans le match. Et derrière, malgré ça, ils mettent 3 buts en 10 minutes et ils se sauvent. Et ça permet de célébrer Dante, vous en parliez, c'est très important. D'ailleurs, le club, depuis le vendredi, travaille pour justement célébrer une nouvelle fois Dante, mais avec du public, parce que c'était quand même un peu triste de le voir quitter la scène de la sorte sur un coup de coude, la bouche en sang, qui plus est. Voilà, le 18 juin, des festivités seront prévues dans Nice, autour de Dante, en sa présence. On sait d'ailleurs, désormais c'est officiel, qu'il entraînera la saison prochaine, ouais. U23 du Bayern Munich. Et puis sinon, au-delà de ça, en parallèle, il y a ce fameux fonds américain dont on ne connaît pas encore l'identité, Montpellier, mais qui discute avec Ineos. On nous fait comprendre que rien ne se passera d'ici la mi-juin. On ne sait pas vraiment s'il est question d'une vente partielle ou totale dès cet été. Il est possible que ça se fasse progressivement. C'est assez flou. Très peu d'infos filtrent à ce sujet. Mais quoi qu'il arrive, il faut reconstruire, repartir quasiment d'une feuille blanche. Parce que voilà, aujourd'hui, c'est la mission de Maurice Cohen qui est revenu cet hiver au club. Il y a Jean-Claude Blanc aussi qui l'aide dans cette mission, le PDG d'Ineos Sport. Jean-Pierre Hivert, lui, il l'avait annoncé à son retour, sa mission s'arrête maintenant. Florian Maurice et le gym se sont séparés d'un commun accord il y a quelques heures, puisque ça a été officialisé et communiqué hier soir. Donc désormais, la suite, pour lui succéder à la direction sportive, on parle avec plus qu'insistance de Geoffrey Moncada. Alors, c'est pas encore officialisé, mais il est quand même déjà très actif. Pour vous le présenter en deux mots, il a 39 ans, il est originaire de la région et surtout, il vient de sortir de 8 années à l'AC Milan.
D'où il vient de se faire vider comme un malpropre par le boss.
Comme tout le monde, il y a eu un super beaucoup de choses.
Mais oui, mais c'est pour ça que je dis comme un malpropre, parce que bon, il n'était pas quand même le seul responsable.
Responsable du recrutement, directeur technique, il a eu pas mal de taf. Il était aussi avant ça pendant pas mal d'années à Monaco, donc il connaît le contexte. Voilà, on va faire Maurice Cohen va rappeler aussi Roger Ricord, qu'il a eu sous ses ordres à l'époque, jusqu'en 2009, comme dirigeant au gym. Roger Ricord qui a joué aussi sous le maillot rouge et noir. Donc voilà, vraiment, on reconstruit totalement. Sur le banc aussi, parce que maintenant, la première mission, le but, c'est de réorganiser tout ça sans se soucier de la potentielle vente. Donc la première mission, c'est de choisir un entraîneur, puisque Claude Puel, merci pour le maintien, mais ça a quand même été très laborieux. Donc qu'il y ait vente ou pas, aujourd'hui, on veut plutôt écrire l'avenir avec un Alexandre Dujeu ou un Didier Digard, qui sont les deux profils qui ressortent le plus. Pour Bruno Genesio, bon, c'est aussi évoqué, mais on sait qu'il y a quand même une plus forte concurrence. Et puis alors là, l'effectif, entre les gros salaires, les fins de contrat, les joueurs prêtés, ceux qui déçoivent, et en plus il y en a qui cochent plusieurs de cases, comme un Sofiane Diop ou un Mohamed Ali Chow, qui sont finalement des déceptions. Boudaoui, qui a un an de la fin de son contrat, comme Sofiane Diop aussi, c'est des joueurs qui malgré tout gardent une belle valeur marchande, et c'est peut-être le moment aussi pour eux de se lancer vers un nouveau challenge dans leur carrière.
Les dernières infos de l'OGC Nice dans Génération After, grâce à Maxime Tidiet, notre correspondant sur la Côte d'Azur. Messieurs, beaucoup de choses dans ce que nous a dit Maxime, parce que ça va bouger, on l'a entendu, au niveau des investisseurs. Alors, est-ce que Ineos va passer la main, ou est-ce que Ineos va juste ouvrir un petit peu le placard, le frigo, pour partager du changement dans le staff, du changement donc dans l'organigramme, et du changement chez les joueurs.
Ce qui interpelle juste, pardon, c'est le timing qu'évoque Maxime court. Quand même, parce que si tu passes la main mi-juin, s'il y a potentielle vente mi-juin, comment on peut imaginer qu'un Moncada soit nommé avant, qu'un nouvel entraîneur soit nommé avant, alors qu'il y a d'autres actionnaires qui arrivent? Je pense que déjà c'est un peu une zone grise, cette histoire de timing.
Mais pour moi, c'est le point le plus important, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Nice, ce serait illusoire de penser que le terrain est le plus important. Non, pour moi, la chose la plus importante, c'est la gouvernance niçoise, notamment l'organigramme qui va être défini, déjà par rapport à l'actionnariat, l'investisseur qui pourrait arriver ou pas, le directeur sportif, et ensuite l'entraîneur. Il faut que Nice puisse se reconstruire petit à petit, et avec de la bonne compétence, de manière à ce qu'il y ait une influence directe sur le terrain. Parce qu'aujourd'hui, parler de Nice, notamment par rapport à des considérations terrain, c'est un sujet qui est annexe, et c'est fou de se dire ça, parce qu'on est début juin et que les équipes vont reprendre l'entraînement dans un peu plus de 3 semaines. Mais aujourd'hui, on en est là à savoir qu'il faut reconstruire un club, ou plutôt sa direction.
Maxime, le fait qu'il y ait déjà quand même autant de pistes là, comme celle que tu as énoncée, dans les changements à venir, que ce soit le staff, l'organigramme, est-ce que c'est quand même pas le signe que Ineos va pas totalement se désengager tout de même?
Il y a des signaux qui pourraient laisser penser ça, d'autres non.
Après, en fait, t'es obligé de prévoir, tu vois. Que tu vends ou pas, t'es obligé de prévoir le scénario où tu restes, en fait. C'est criminel. L'inverse aurait été, ça aurait été un manque de professionnalisme total. Et on sait qu'Ineos, ils ont pas tout fait bien. La moindre des choses, c'est d'essayer de faire comme si t'allais rester là.
Ou d'essayer de proposer un projet clé en main à des futurs propriétaires. C'est également une solution.
On nous a aussi longtemps dit que une fois le maintien acté, c'est bon, ça se débloquerait pour ces discussions-là. Est-ce que si Nice avait sauvé sa peau plus tôt, bien avant les barrages, le changement de cap aurait déjà été opéré, on ne sait pas, parce que finalement, là Nice s'est sauvé in extremis, mais c'est sauvé, et on nous dit quand même que il y aura quand même un petit délai, une période durant laquelle il faut s'attendre à ce qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire jusqu'à la mi-juin. points parce que bon, bah, tout n'est pas encore finalisé. On sait que c'est toujours compliqué ce genre d'opération. Donc voilà. Et en effet, il faut forcément prévoir le coût. Là, en l'état, on prépare un club avec un budget autour des 60 millions d'euros. Donc c'est à peu près ce que Lens avait cette saison pour préparer la saison prochaine. Non, parce que l'été dernier, on tape souvent sur Ineos et a raison. Mais malgré tout, Nice faisait partie des clubs qui a réussi à le plus réinvestir l'été dernier malgré les départs.
Et comment ils ont réinvesti? C'est ça le problème, c'est comment tu dépenses ton argent aussi.
Carlos, voilà, il y a eu des erreurs évidemment.
Il y a eu quasi que des erreurs.
On avait souligné qu'en effet le recrutement.
C'est quoi le déficit structurel?
Bon, là, j'ai pas le détail.
Voilà, c'est la question.
Mathieu, tu sens le patron.
Il veut le business plan. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il va reprendre le club quand il parle comme ça, Kevin.
Il a quelques idées, Kevin.
T'es sur le dos.
Il est venu te chercher sur le déficit structurel comme ça, depuis
non, mais
tu l'aurais pas vu.
Aujourd'hui, blague à part, c'est très important. Ça veut dire qu'il faut savoir à quel point le GC Nice va devoir vendre. Qui dit vendre, il n'y a pas beaucoup de valeur marchande dans ce club. Donc, qui dit tu ne peux pas vendre, et bah du coup, va falloir que le nouveau propriétaire réinjecte beaucoup. C'est pas que acheter le club, c'est aussi, combler le déficit.
Messieurs, je vous coupe, je vais voir Eric Salio. Eric, c'est la mine déconfite de Jimmy Brown qui m'a incité à venir te voir. Que se passe-t-il, Roland Garros?
Il est bon, ce tchèque.
Il nous ferait presque douter.
Ce tchèque. 45 pour Jakub Mensik, a profité d'une petite faute de Joao Fonseca pour prendre un break au milieu de cette manche. Et derrière, il a pas molli. On va voir si dans quelques secondes, il va boucler cette manche après seulement 41 minutes. J'avais un petit coup de gueule, mais là, il est passé parce que les tribunes VIP étaient un peu dégarnies. Mais ça y est, les gens ont mangé, tout est rempli. On est rassurés. Balle de 7. Donc, il se commence par un revers bien décentré. Donc, première balle de 7 sauvée par Joao Fonseca, 40-30. On va voir s'il peut quand même avoir du répondant, Joao. Ouais. Mentalement, il a montré d'excellentes choses contre Novak Djokovic parce que on n'en a pas parlé assez, je crois. La qualité de ce match était juste exceptionnelle. Mais un grand chelem, il faut enquiller les matchs. Et c'est vrai qu'il commence peut-être à accuser la fatigue, le jeune Brésilien. Attention, Mensik là qui monte au filet et qui conclut. 6-4 avec une volée haute de coup droit. 6-4 en 42 minutes. Je vois, il faudra réagir très vite.
Tu vas encore dormir à 2h du mat, toi?
Non, ça va vite. 42 minutes, c'est très rapide, c'est parfait. Mais je me suis régalé la nuit dernière. Là, j'ai envie de me détendre à la fin des directs de la Night Session féminine. Hein. Merci les gars, au fait. Zéro intervention. Et je me suis dit, tiens, je vais aller voir le 4e set sur le Langland. J'ai pas pu quitter. C'était trop bon. J'ai quitté à 1h30. C'était génial.
Bon, bah formidable. En plus, tu croiseras peut-être Maria Sharapova au buffet d'après match. J'imagine que la cote de Joao Fonseca vient d'augmenter, mon cher Jimmy, si ça intéresse tes amis parieurs.
Je suis pas sûr qu'il mette des sous en direct, là, Jimmy.
Je suis pas au courant. Non, mais je ne joue pas, moi. C'est un mythe, ça, Eric. C'est quoi vous parlez?
Ce sont des idées reçues, des bruits de couloir, ça. Alors. À tout à l'heure, Eric, la sensation brésilienne, Joao Fonseca, qui est donc mené 1-7-0 en night session à Roland-Garros par le tchèque Mensik.
On est toujours avec... à ta question, Kevin, sur le déficit.
Maxime Chiliet, il a bossé pour la pause.
Simon, il a relancé Eric trois fois le temps que tu puisses chercher.
Merci, c'est bien joué. Non, mais pour citer nos collègues de Nice ce matin qui évoquaient 40 millions de déficits structurels.
C'est à ça que je pensais.
À compenser.
Attention, il n'y a plus un B, il n'y a plus de droit télé.
Ça t'évoque quoi comme chiffre du coup?
Non, mais c'est énorme, 40 millions. Ouais. Quand tu n'as pas de valeur marchande à l'intérieur de l'effectif, 40 millions, c'est beaucoup. Donc c'est aussi peut-être sur ce genre de choses que les négociations peuvent coincer.